programme de VOA Afrique, bien sûr.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue à tous dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza en votre compagnie. Lionel Lunanila Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous débutons une longue série sur l'importance de connaître son tempérament. Voudriez-vous changer votre vie, être en meilleure santé, vous connaître vous-même, vous pardonner, pardonner les autres, adapter vos comportements, trouver vos activités? Le secret, c'est le reconnaître pour se reconnaître. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le tempérament sanguin. Pour en parler, un couple chrétien qui a vécu cette expérience et aussi engagé à aider les autres. Nathalie Nyamoya, bonsoir.
Bonsoir Eric, c'est toujours un plaisir de te retrouver.
Moi aussi, Olivier Akizimana, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Vous êtes marié et parent de 3 enfants pour le moment, n'est-ce pas?
Exactement.
Et je pense que ce sera la fin aussi, il y a que ce sera que 3 enfants.
Il ne faut pas refuser la bénédiction de Dieu.
C'est sûr, mais si ça tenait qu'à nous, 3 suffisent amplement.
Mais vous savez aussi, les neveux et les nièces, ce sont des bénédictions.
Exactement.
Absolument. Merci d'être avec nous. Nathalie, je commence par vous. Oui. Comment décrire la personnalité d'une personne de type sanguin et que dit la Bible à propos?
La Bible ne parle pas de personnalité à proprement parler, mais au travers des personnages que l'on retrouve dans la Bible, on peut reconnaître facilement ce qu'un sanguin. Alors, un sanguin, c'est quelqu'un qui, généralement, de bonne humeur, qui a une sensibilité dans ses relations avec lui-même et avec son milieu. Et l'une des choses qui le caractérise, c'est qu'il aime beaucoup les gens, qu'il veut les rendre heureux et qu'il est souvent amical et communicatif.
Extraverti.
Extrêmement extraverti. Mmh. Parce qu'effectivement, on a 4 types de tempéraments qui sont regroupés en 2 groupes, les extravertis et les introvertis. Lui, il fait partie des extravertis, celui vraiment qui est très visible, qui est très enthousiaste, très impulsif dans ses réactions.
Vous semblez parler de quelqu'un qui est juste à côté de vous, un homme très chaleureux, n'est-ce pas, Olivier? Comment le reconnaître pour se reconnaître? Est-ce que cette description de Nathalie suffit?
Oui, exactement, parce que tu sais, quand on interagit avec les gens, des fois, et surtout quand on vient de recevoir le Seigneur, qu'on s'engage dans la voie chrétienne, il y a des gens qui nous attirent, parce que quand on lit la Bible, on voit certaines valeurs, certains comportements que la Bible nous demande d'avoir. Et quand on regarde les gens qui sont autour de nous, on dirait qu'eux, ils ont ce comportement ou cette attitude. Alors, on les envie d'une part. Et quand j'ai commencé à creuser pour connaître plus sur les tempéraments, je me suis reconnu en tant que sanguin. Et à se reconnaître comme sanguin, être chaleureux, être là, enthousiaste, amical. Et ça peut être, je dirais, être pris comme, je dirais, une faiblesse des fois, dans certaines situations. Il y en a aussi qui ont envie de son côté. Et c'est pour cela que, peu importe comment on est, le Seigneur t'a béni comme ça et t'a donné son tempérament. Et c'est un outil que tu peux utiliser tout autour de toi pour être une bénédiction.
Vous dites que vous êtes sanguin vous-même, vous le découvrez à travers vos recherches, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Oui, je l'ai retrouvé à travers les recherches.
Et c'était quand?
Il y a autour de 17 ans ou 18 ans, et j'ai lu un livre d'un chrétien et qui est aussi un psychologue. C'est un livre qui s'intitule « Les tempéraments dirigés par l'esprit ». C'est par Tim LaHaye. Et c'est un livre qui m'a vraiment interpellé, qui m'a touché, qui m'a ouvert les yeux sur les tempéraments. Parce qu'avant, j'étais ignorant. Et il y avait des choses que je voulais changer parce que des fois, je me disais, je suis trop ouvert aux gens. Je m'embarque souvent dans plusieurs projets en même temps. Et je disais, mais on dirait que c'est un tard quelque part. Alors, en lisant cet ouvrage, ça m'a ouvert les yeux et j'ai compris que j'étais comme j'étais et que le Seigneur m'avait rencontré tel que j'étais et que aussi c'était une bénédiction, c'était un capital que le Seigneur m'avait donné.
Quels sont les problèmes que votre tempérament, disons, cause à vous-même ou a causé à vous-même, aux autres? Et comment vous vous ajustez?
Je dirais souvent, le plus grand problème qu'on a, on est porté par les gens qui sont à l'extérieur. Et c'est pour cela que les sanguins qui vont se reconnaître, on est moins présent à la maison. Et quand on ne le sait pas encore, c'est comme si on est, je compare souvent les sanguins avec les pompiers, on est là pour éteindre le feu chez les autres. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement, je dirais, aveugle par rapport à la souffrance des gens qui sont proches de nous, que ce soit notre conjoint, que ce soit les enfants. Et il y a plusieurs enfants qui ont souffert, donc de ce tempérament de la part des parents qui étaient sanguins, qui n'étaient presque jamais présents. Et j'ai eu tendance, durant les premières années de mon mariage, à être porté vers l'extérieur. On m'invitait souvent pour aller porter la parole ou pour aller aider les gens. Et j'étais tout le temps présent là. Et jusqu'à ce que Nathalie me dise, mais on dirait que je te vois jamais. Et quand tu arrives à la maison, tu es tellement brûlé, tu es tellement fatigué, épuisé, que j'ai même pas le temps de consacrer, d'avoir un moment de qualité avec toi. L'autre défaut, c'est quelqu'un qui est superficiel, parce qu'ils aiment le changement. Et un vrai sanguin qui se respecte aime changer, aime la variété. Alors, quand on n'a pas encore compris ça, souvent les gens, ils croient que nous sommes superficiels et on a tendance à l'être, à ne pas creuser, entrer en profondeur dans les choses. Et même dans les relations, tu sais, on peut avoir 100 amis, mais réellement pas de vrais amis. C'est comme si on est amis avec tout le monde, sans pour autant être réellement amis avec quelqu'un dans une relation qui est plus profonde. Je dirais l'autre défaut qu'ils ont, c'est qu'ils sont changeants. Alors, habiter ou vivre ou avoir une relation avec quelqu'un qui est changeant, qui est instable, ça perturbe.
Comme de l'air.
Ah oui, exactement. Exactement. Ouais. Parce qu'on compare aussi dans l'étude des tempéraments, mm-hmm. on compare les sanguins à l'air. L'air qui est là, qui est inconstant et qu'on ne peut pas contrôler aussi. Et vous savez, la Bible aussi compare quelqu'un qui naît de nouveau avec le vent. Il souffle où il veut et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose avec, je dirais, le sanguin. Et comme l'air, nous nous adaptons partout.
Vous semblez, décrire quelqu'un qui correspond, je dirais, au second âge de la vie, celui de l'adolescence. Est-ce qu'un sanguin... C'est un adolescent permanent.
Ah oui,
effectivement.
Nathalie pourrait le dire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que la plupart des amis que j'ai qui étaient sanguins, ou qui le sont toujours en plus, on dirait qu'ils sont des éternels sanguins. Sauf s'ils ont pris la décision, au travers de la vie, de l'expérience, ou bien même des conseils, de pouvoir s'ajuster, de s'orienter, tout en gardant cette joie interne qu'ils ont naturellement. Mais c'est vrai que... S'ils ne sont pas très bien orientés, ils ont vraiment tendance à être comme des éternels adolescents.
Nathalie, quelles sont les autres forces d'un sanguin?
L'une de ses forces, c'est un grand motivateur. Donc, lorsque tu es vraiment très mal, lorsque tu as le blues, lorsque tu es mal, ce sont vraiment de bons pasteurs, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Ce sont des gens qui aident les autres à se remettre sur pied parce que leur entrain est quand même contagieux. C'est quelque chose qu'ils ont en eux. D'ailleurs, ils se ressourcent quand il y a beaucoup de gens. Donc, ils trouvent leur équilibre émotionnel quand il y a beaucoup de gens. Donc, ils auront tendance à te relever lorsque tu as vraiment des moments très bas, lorsque tu as besoin d'une certaine amitié, d'un peu de douceur dans ta vie.
Donc, quelqu'un qui est facile à vivre.
Absolument. C'est vrai que c'est un bon ami. Donc, en général, c'est vraiment, ce sont de très bons amis, ce sont de très bons compagnons, partenaires, coéquipiers. Même si c'est vrai, des fois, ce côté trop instable, trop changeant, trop porté vers les autres, ça peut un peu nuire à la famille ou à la famille nucléaire, peut-être même pour les enfants qui ont besoin de voir le père là ou la mère là qui est sanguin et ils ont besoin d'une certaine stabilité qu'ils n'ont pas. Mais quand même, ce côté positif, motivateur, c'est quelque chose qui est très important.
Est-ce que c'est quelqu'un qui s'excuse facilement, qui est optimiste?
C'est vrai. Vraiment, ça, c'est très facile pour un sanguin de pouvoir demander pardon parce que lui, il trouve son équilibre dans le fait d'avoir de bonnes relations et surtout de te faire plaisir. Mais des fois, il pourra te demander pardon sans être convaincu de pourquoi il doit te demander pardon. Hein, il faut pas non plus exagérer. D'où, on pourrait même penser que ce sont des escrocs émotionnels. Mais au fond, ce sont vraiment des gens qui, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas pourquoi il faut demander pardon. ils demanderont facilement pardon.
Ah oui, je pourrais le témoigner parce que il m'est facile de demander pardon. Et même à mes enfants, je leur demande souvent pardon quand je me suis trompé, erreur de jugement. Je vais chez eux et je dis à mon fils ou ma fille, excusez, là je me suis trompé. Donc c'est très facile parce que comme Nathalie le disait, on est plus porté à avoir une relation qui est saine. C'est ce qui nous motive, mais aussi à faire plaisir, à ne pas choquer. Et c'est pour cela qu'il nous est facile de demander pardon et de l'accorder aussi.
Il y a aussi le côté charismatique.
Ah oui.
Oui, bon, je pense parce que comme on est dans le relationnel, c'est facile, on est doté de ces dons, donc on est charismatique, on s'exprime facilement, on parle aux gens, mais aussi, c'est pas seulement parler aux gens, mais c'est de trouver les mots qu'il faut, parce qu'on est tellement sensible qu'on
sait... La spontanéité,
mais aussi on sait sur quelle corde toucher ou jouer pour pouvoir susciter l'intérêt de l'autre, pour pouvoir le consoler, pour pouvoir l'amener dans ton monde de plaisir. Parce que le sangue, il est tout le temps à la recherche de plaisir.
Parlons des faiblesses ou des frictions, comme on dit. Vous avez parlé de l'insouciance, en quelque sorte, Nathalie, lorsque vous avez touché le côté impulsif. Est-ce qu'au niveau de la consistance, par exemple, quand on entreprend quelque chose, est-ce qu'un sanguin, c'est quelqu'un qui est consistant ou inconsistant? Est-ce que c'est quelqu'un qui termine toujours ses projets ou...
Très, très rarement. Il a, par contre, un pool d'idées extraordinaires. Il aura toujours des choses à vouloir faire, à vouloir changer parce qu'il veut voir le bien partout. Donc, dans ce côté positif, il voudra relever tout le monde, avoir plusieurs projets, mais il ne peut pas le faire. Il sait qu'il ne peut pas le faire. Et il a tendance à être inconstant dans ses convictions et même aussi dans ses relations et en particulier dans ses projets. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas au bout de ses idées, qui les crée facilement, mais qui ne va souvent pas au bout de ses idées.
Ouais, c'est ça.
Il oublie après, qu'est-ce qui se passe?
Dans sa nature, il est changeant, hein? Donc c'est quelque chose de naturel chez lui. Il aime beaucoup l'aventure.
Je dirais, il est plus impulsif. Je suis impulsif et vous savez, comme pour tous les impulsifs, il faut qu'il y ait un stimuli. Alors, dépendamment des circonstances, les stimuli ne sont pas les mêmes. C'est pour cela qu'on peut le juger comme étant changeant, mais à chaque saison, il y a quelque chose qui le stimule le plus. Et quand il est vraiment stimulé, là, il se lance dans des projets avec des idées exceptionnelles. C'est pour cela que heureusement qu'on n'est jamais sanguin à 100%. Celui qu'on appelle sanguin, c'est un sanguin parce qu'il a ce tempérament comme dominant, mais il a d'autres, je dirais, d'autres tempéraments. Mais aussi, le Seigneur, dans sa préscience, il nous met à côté des gens qui sont cadrés, qui peuvent nous cadrer aussi et qui nous aident, à canaliser cette force et ces dons qui sont en nous. Et à ce qui me concerne, Dieu a mis à côté de moi Nathalie.
Une mélancolique.
pas de faux semblants.
De faux semblants.
Oui,
parce que comme Nathalie le disait, on peut devenir facilement hypocrite, comme on est superficiel. Donc, il est facile parce qu'on n'est pas choqué. On dirait que notre mission première, c'est de procurer du plaisir. Alors, si porter un masque peut t'aider à avoir du plaisir, je vais porter son masque. C'est pour cela qu'il peut y avoir de faux semblants souvent.
Dans le sens de distraction ou...
Dans le sens général, parce qu'à la base, ils n'aiment pas les conflits. Ils sont un tout petit peu comme les flegmatiques. Mais, comme je le disais, ils ont comme une mission de pouvoir procurer cette joie, de donner son plaisir aux personnes avec qui il est en interaction. Et c'est pour cela qu'il essaie de toutes les manières. C'est pour cela que même il s'adapte facilement. Alors, vous savez, quand on essaie de s'adapter souvent, on peut dire qu'on n'est pas vrai. Mais ça dépend toujours de la motivation qui est derrière.
Quelqu'un disait que vous êtes aussi bavard. Est-ce qu'on peut prendre ça comme... une friction ou une force?
Ça dépend des situations, parce que je pense que si on est en face d'un flegmatique, il va considérer ça comme... des fois de la folie, mais aussi, lui, on le met dans sa zone de confort, parce qu'il aime avoir en face la personne qui parle souvent. Alors, si on est en face d'un colérique, ah là là, là on le gêne, Et il va entrer dans une colère folle aussi, parce qu'ils aiment aussi à prendre le volant, prendre le contrôle. Ça dépend donc des situations et avec qui est en face de toi.
De plus, je me dis qu'il y a des moments, en fait, il faut parler. Il y a des moments aussi, il ne faut pas parler. Donc, c'est là où il faut apprendre à savoir qui on est et ce qu'il faut faire dans certaines conditions. Lorsque tu vois, par exemple, une personne qui est vraiment démotivée, qui a le blues, qui est déprimée, qui est dépressif, c'est très bon d'amener le sangha à lui parler lorsque, bien sûr, l'autre est d'accord pour pouvoir être aidé dans ce domaine-là. Mais c'est quelqu'un qui va toujours t'emmener à sortir de la dépression, à sortir des idées noires, à sortir de ta zone de confort, à t'emmener dans un domaine d'amusement. Mais aussi, ça peut être dangereux ou même très fatigant lorsque l'autre n'a pas envie d'écouter. Et ça peut créer des frictions, surtout pour les gens qui ne sont pas très bavards ou qui, dans une saison particulière, n'ont pas envie de pouvoir aller dans l'amusement.
Et surtout que la Bible dit avec beaucoup de mots, on ne manque pas de péché,
c'est
de manquer la cible.
Connaissez comme mélancolique. Est-ce que votre attitude a changé vis-à-vis de votre mari lorsque vous découvrez son tempérament sanguin? Comment vous participez à ce qu'il y ait une compatibilité entre vous deux?
C'est vrai qu'un sanguin, c'est un bon parleur, donc forcément c'est un bon séducteur au niveau des mots. C'est bien quand vous êtes encore fiancé, mais ça peut ne pas être correct, ça peut être un peu fatigant lorsqu'on est marié. Mais quand on découvre que l'autre n'est pas comme nous, qu'il n'est pas obligé d'être comme nous, et qu'on met dans la case 1, en fait c'est un sanguin, il a besoin de s'exprimer de la sorte, il trouve son équilibre de cette manière, ça diminue les frictions, les problèmes entre nous. Parce que ce n'est pas seulement parler, mais c'est sa façon de voir les choses, sa façon de changer tout le temps certains sujets, sans sa façon d'être impulsif en voulant dire, écoute, on va à cette heure-ci, on part, est-ce qu'on peut visiter un endroit, alors que pour une mélancolique, il faut que tu la préviennes beaucoup plus tôt. Lorsque j'ai compris qu'au fond, il ne peut pas être comme moi et je ne peux pas être comme lui, ça m'a beaucoup diminuer la pression. Et en même temps, comme on a parlé qu'ils sont assez superficiels, ce sont des gens qui ne savent pas dire non. Ils vont toujours dire oui aux gens. Et je me dis que je pense que j'ai contribué dans sa façon à apprendre à dire non. Je lui disais non et tu ne peux pas dire oui tout le temps. Et maintenant, il prend beaucoup plus de recul à accepter soit des invitations ou toute forme d'entreprise, à être beaucoup plus mesuré. Est-ce qu'il dit non tout le temps? Non, mais quand même, il y a beaucoup plus d'équilibre dans ce domaine. Je me dis que c'est en fait un échange de bons procédés.
On n'est pas omniprésent, Olivier.
Ah oui, malheureusement, on en prend souvent à notre dépens, et parce qu'on a tendance à être partout, à vouloir être partout. Et comme je le disais, on a l'âme de pompier, et on veut être là à éteindre tous les feux, et à aider à chaque personne qu'on rencontre. À se donner, mais on arrive à comprendre, et surtout quand on est aidé, et surtout quand on fait ce travail sur soi et qu'on comprend ses limites. Et parce que des fois, je ne sais pas si c'est par orgueil déguisé, on veut se substituer à Dieu, et c'est comme si on voulait prendre sa place et essayer d'exaucer la prière, entre guillemets. Mais quand on comprend sa place et qu'on comprend la place de Dieu, on est mesuré, comme Nathalie le disait.
Et quelqu'un qui nous écoute, par exemple, comment peut-il faire pour reconnaître ce qu'il est et se reconnaître pour s'accepter et aussi comprendre qu'il doit changer par rapport à son partenaire ou à son entourage, Nathalie?
Je pense que pour se reconnaître, il faut qu'il comprenne que c'est quelqu'un qui est souvent extraverti, qu'il aime les gens, qu'il est porté à les rendre heureux, qui est souvent très amical et très bon communicateur. Donc, il est très cordial dans ses relations, très généreux émotionnellement et même financièrement, qui est souvent compatissant. Vraiment, c'est quelqu'un qui a la compassion pour les autres et qui est souvent aussi dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'il se reconnaît comme ça, c'est très bien de savoir qu'il n'est pas fou, parce que grâce aux audio podcasts que nous donnions, je me rappelle qu'il y a une femme qui est sanguine qui nous a dit « Écoute, ça me fait plaisir de me rendre compte que je suis normale, parce que j'étais parmi des gens qui sont presque comme des colériques, je me disais que j'étais faux ou folle. » Donc c'est très important de savoir que c'est normal d'être comme cela. Mais ce qui est important, c'est de connaître ses faiblesses, donc ne savoir qu'il ne faut pas tout le temps être tourné vers l'amusement, ne pas prendre l'amusement comme une drogue. En fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de sanguins qui vont prendre l'amusement ou la joie, donc ils vont partir dans les boîtes de nuit, ils ont beaucoup d'amis, ils vont toujours fuir les problèmes pour aller dans les amusements, être superficiel, savoir que ces faiblesses-là, il faut non seulement affronter les problèmes frontalement et surtout apprendre à être beaucoup plus stable, à savoir qu'il faut faire beaucoup plus de travail que d'autres dans ce domaine-là.
Olivier, comment finalement la foi intervient pour se découvrir et aussi s'adapter à d'autres comportements?
Je pense que quand on se rappelle que c'est Dieu qui nous a créés et qu'on ne s'est pas créé, c'est déjà le commencement, un bon début. Mm-hmm. Et à travers la parole de Dieu, la Bible nous montre que c'est comme le manuel de celui du Créateur, de celui qui nous a formés. Et vous savez, comme quand vous achetez un appareil électronique, souvent on met dans le carton le manuel d'emploi. Et à travers ce manuel d'emploi, c'est là où on voit de quoi est fait donc cet appareil, quelles sont les choses à éviter, ou bien comment on le branche, comment on peut l'utiliser à son maximum. Et dans la parole de Dieu, on peut le découvrir. Et vous savez, à partir de cette foi, parce qu'au fond, quand on parle de ces tempéraments, ils sont motivés par une seule chose, c'est d'être accepté. C'est une forme, c'est une façon, c'est un désir, c'est un besoin d'être accepté, d'être aimé par l'autre. Alors, les quatre tempéraments utilisent quatre sortes d'armes ou de stratégies pour arriver à cette fin. Et c'est pour cela qu'à travers la parole de Dieu, on comprend que dès le départ, on est accepté, on est aimé tel qu'on est. Alors, ça, quand on le découvre, ça devient facile de s'accepter.
Une autre chose que j'ajouterais, c'est que l'une des faiblesses pour un sanguin, c'est l'amusement, c'est-à-dire la recherche de la joie. Et quand il comprend que Jésus, que Dieu seul est sa propre joie, la plupart des fois, il arrive à être moins lié par les gens, à vouloir rechercher la présence des autres, parce que dans les problèmes qu'il va arriver dans la vie d'un sanguin, c'est qu'il aura toujours des relations qui se brisent. Il recherchera de s'épanouir parmi les gens, dans les relations avec ces gens. Mais quand il comprend que c'est Dieu qui va d'abord l'épanouir, il devient moins lié par les gens.
Et comment changer les faiblesses, justement, pour garder ce qui est positif et peut-être transformer les faiblesses en force, Nathalie?
Moi, je dirais que, comme Olivier vient de le dire, c'est plutôt de se ressourcer dans la parole et de voir exactement ce que Dieu a déposé en toi. Parce que nous avons tous un dépôt différent, certes, mais il y a un dépôt que Dieu a mis là. C'est seulement qu'à cause de la chute, nous utilisons ce dépôt différemment, en voulant l'utiliser à notre manière. Lorsqu'un sanguin comprend qu'il est là pour aimer, et c'est excellent, mais qu'il ne peut pas aimer les gens par sa propre force, et que c'est d'abord Dieu au commencement, comme il le dit, et que tu es capable d'aimer les autres parce que tu as fini par recevoir l'amour de Dieu totalement, c'est là où c'est facile de manifester en fait ce pool d'énergie positive que tu as en toi, artistique, etc., qui s'exprime dans beaucoup de domaines, vraiment pour servir les autres.
Je pense aussi qu'il faut toujours questionner sa motivation. Mm-hmm. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux ça? Mm-hmm. Pourquoi j'ai un tel comportement à l'égard des gens? Mm-hmm. Pourquoi? Et c'est en se posant ce genre de questions que ça devient facile de savoir, de connaître cette motivation et de savoir si on cherche quelque chose. Hier, je lisais dans la parole de Dieu, quand les femmes sont allées voir Jésus, quand il est ressuscité, il y a les anges qui ont dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Alors, dans la même, je dirais, thématique des tempéraments, souvent on cherche chez les autres ce qui est mort, alors qu'en Dieu seul se trouve ce qui est vivant. Et il nous invite à s'approcher de lui pour pouvoir bénéficier et profiter de ce qui est vivant. Donc, posez-vous la question, essayez de questionner vos motivations.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. On parlait de l'importance de tempérament, on parlait du sanguin. Je vous invite pour nous suivre la prochaine fois. On parlera de la personne mélancolique, n'est-ce pas, Nathalie?
Absolument, on va parler du mélancolique ou de la mélancolique.
Merci, merci Nathalie Nyamoya pour votre contribution.
Merci à vous, Eric.
Merci Olivier Akidimana.
Merci énormément.
Merci à Lionel Donanida Garima qui a assuré la mise en onde. Eric Manilakis a été avec vous. Merci également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. À la prochaine.